On parle des enseignements sur l'idéal de l'éternité. D'accord ? Et nous sommes arrivés be daf tzadik hey amoud bet. Be daf tzadik hey amoud bet dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin. Et là, on va voir un petit peu ce qui va arriver à l'armée assyrienne et comment est-ce qu'elle va finir. Alors, remettons un petit peu les choses dans leur contexte pour qu'on sache de quoi on parle. Nous sommes dans l'époque de Melachim, du Sefer Melachim. Nous sommes dans l'époque, pour être exact, en l'an -701. Ok, -701. 20 ans plus tôt, il y avait déjà eu un drame causé par les Assyriens, puisqu'en l'an -721, ça a été la destruction du royaume d'Israël. Car vous vous rappelez que Israël a été séparé en deux royaumes après la mort de Shlomo, entre Rechavam ben Shlomo et Yerovam ben Nevat, Mamlechet Israël au nord, Mamlechet Yehuda au sud, et elles vont comme ça vivre côte à côte pendant près de 200 ans, un peu moins de 200 ans. En -721, sous le règne de Hoshea ben Ela, c'est terminé, ils arrêtent de payer leurs impôts à la Assyrie vient et va tout détruire. Il reste pourtant Mamlechet Yehuda, qui pendant 20 ans continue à être des vassaux de l'Empire assyrien. Et en -701, le roi Chizkiyahou, lui aussi, décide de se rebeller, de ne plus payer l'impôt. Et donc, eh bien, Sanhérib, roi de Ashur à cette époque-là, vient tout détruire, tout simplement. Ok ? Alors, on avait déjà parlé de la fin de l'histoire lorsque Chizkiyahou a été sauvé par Akadosh Baruch Hu et qu'il n'avait pas dit la Shira, qu'il n'avait pas dit le Hallel, et à cause de ça, il n'est pas devenu le Mashiach. C'est-à-dire, Hallel, Yom HaAtzmaout, tout ça c'est derrière nous. Ça y est, maintenant les Vikouchim.
Hallel le vendredi, le 5, le 4.
Ah ouais, non, non, on ne dit pas. On ne fait pas Tachaloun, on ne dit pas. Bekitsour, on a encore maintenant, on a de nouveau un an avant de se revoir.
C'est ça, dans le doute.
C'est ça, t'as vu, dans le doute. Bekitsour, non, non, nous on a été à Tfila au Kotel, c'était une très très belle Tfila. Comme il faut, comme le Seder. C'est vrai que vous avez une tfila aussi dans la colline de Samuel, et une tfila jolie.
De compète,
j'entends bien, mais peut-être que c'est parce que c'est la tfila de mon rabbin, mais je me dis quand même que Berova Madrat Meller, si ça pouvait devenir la tfila du Ham Israël, que tout le monde monte à Jérusalem pour la tfila de Erev Yom HaAtzmaout.
Si, alors, je suis en galère là-bas, il n'y a pas de problème.
Hein, c'est ça. Tu dis, il manque de guitare.
Non, j'ai rien dit. Je dis qu'il faut qu'il rave. Quoi ?
Top, Zeb Ezra Tachem. Quand on fera la tfila sur la montagne. Voilà. Ah, hein.
Tu sais, t'as
accueilli
les gens.
Oui. Moi, je suis encore plus étonné.
Tu vois, regarde.
Top, nous ? Nounou, sauf que si tu viens la semaine prochaine, alors ça sera Chazaka et tu pourras plus aller au foot. C'est un problème. C'est un vrai problème. En tout cas, donc voilà la situation. Donc on est en -701, ça y est, ils se rebellent. Et donc, Sanhérib arrive pour tout détruire. C'est-à-dire, voilà le débat. Et donc, à quoi ressemble cette armée ? Qu'est-ce qu'elle représente et comment est-ce qu'elle termine ? C'est-à-dire, c'est de cela qu'on va devoir parler. Amar Rav Yehuda Amarav. Ba'alehem Sanhérib Arasha Be'arba'im Ve'chamisha Elef Ish Bene Melachim Yoshevim Bekronot Shel Zahav Ve'imma'en Shiglonot Ve'zonot. Eh oui. On commence à nous raconter de quoi est faite l'armée de Sanhérib. On nous dit qu'il a 45 000, comment les décrire, c'est pas des soldats, ils sont Bene Melachim, ce sont des princes qui viennent de Ramat Aviv et qui sont tous, tu comprends, ils peuvent pas se balader tout seul, ils sont tous dans des Kronot Shel Zahav, ils sont des carrosses d'or, et ils ont tous avec eux à manger, et ils ont tous avec eux aussi des dames de compagnie. Je lui mendie. Hein? Donc, on parle d'hommes qui ne sont pas là pour faire la guerre. Eux, c'est la noblesse. OK ? C'est les tzvonbonim, comme on dit chez nous. Donc, ça veut dire quoi ? On a ici 45 000 personnes qui sont l'élite de ce que compte la Syrie. Évidemment, Bene Melachim, ça veut dire qu'en fait, c'est tous des vassaux. C'est-à-dire que c'est qui leur père ? Leur père, c'est le roi. Mais c'est quoi des rois ? C'est des roitelets. C'est-à-dire, ils sont tous au service de Sanhérive, mais ils sont tous les aristocrates de l'époque. C'est-à-dire ? Alors, on va tout de suite crever l'abcès. C'est complètement impossible qu'il ait 45 000 vassaux. D'accord ? Donc, tous les chiffres qui vont maintenant être donnés ne sont évidemment pas les chiffres de la réalité. OK, on va voir que quand on va faire le compte de tous les chiffres, là, dans deux secondes, on va arriver au final, d'après la Gemara, l'armée de Sanhérif comptait 2,5 milliards d'individus. Voilà. Le problème, c'est qu'à l'époque des événements, la planète ne compte pas 100 millions de personnes. C'est-à-dire, donc c'est évident que ce ne sont pas des chiffres qui sont réalistes. Par contre, ce sont à chaque fois des chiffres qui représentent quelque chose. Le Maharal de Prague va déjà nous enseigner cela dans son livre Be'er Agola, dans lequel il explique que les chiffres qui sont donnés dans les Haggadot du Talmud, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ils représentent ce qui est Raoui Liot, ce qui dit devrait être, mais dans la Metziout, dans les faits, il y avait ce qu'il pouvait y avoir. D'accord ? Par exemple, on nous parle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, une autre Gemara, Masechet Psachim, on dit que Moshe Rabbeinu, il mesurait 10 amot. On apprend ça des Yériot à Mishkan. Parce que Yériot à Mishkan, c'est 10 amot. On dit pourquoi tu as besoin de faire des Yériot qui sont de cette taille-là. 10 amot, c'est 4,80 m. C'est pas mal. On dit, bah, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer là-bas, c'est Moshe. Moshe, il fait 10 amot. De là, on apprend d'ailleurs, le Rachaki nous avait enseigné que de là, on apprend que Moshe Rabbeinu n'avait pas de kippa. Parce que sinon, c'est plus que les Seramot et ça ne rentre pas. C'est exactement ce qu'il fallait. Mais bon, vous comprenez bien que Moshe, il ne mesurait pas 4,80 m. C'est également dans la même Gemara, on dit que Paro, il mesurait à Sarat Fahim. 90 cm. Et là, c'est ce qui mériterait d'être. D'accord ? Donc, on va voir ça. Il y a le Rambam, dans Morei HaNevouchim, il écrit comme ça, il dit, à propos des gens qui prennent les Haggadot de Chelek, au pied de la lettre, il dit Rahmana Litzlan Aleem, ils ont oublié de brancher leur cerveau. Voilà ce qu'il dit. Rahmana Litzlan Aleem, Chaval. C'est-à-dire, donc, évidemment, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là ? Donc il y a 45 000, en fait, c'est masé 45. 45, c'est Gematria, Shelamila, Adam. Adam. C'est-à-dire qu'il représente l'idéal de l'humain que voulait atteindre Ashur. D'accord ? Ensuite, Ubeshmonim Elef Giborim Levouché Shirion Klipa. Ils ont également 80 000 chevaliers. On avait les 45 000 princes, on a 80 000 chevaliers. Alors, Mazé 80, Zeshmone. C'est-à-dire qu'il y a une dimension altivite surnaturel qui accompagne Yeshua. OK? Ou be 60 elef achuze kherev ratzim lefanar ve shar ve ashar sera parashim. Et il y avait également 60 000 hommes d'armes, hommes avec épée dans la main. Shesh zeh ribuy bamerchav. 6 c'est le fait que tu prends la place. Pourquoi tu prends la place, nous dit le Maharal de Prague ? Parce qu'en fait, 6, c'est ce qui permet de déterminer ton point dans l'espace. Pour déterminer un point dans l'espace, il te faut 6 coordonnées. OK ? Tu peux pas sinon.
3, 4.
Pourquoi 3 ? 3. Ça ne te fait même pas une coordonnée dans le plan.
Si, si, 2 dans le plan, 3 dans l'espace.
Ah non, les amis. Ah ben non. Si j'ai 2, un point là, un point là, je n'ai pas la coordonnée du bonhomme. Je vais trier une ligne entre les deux, mais ça ne me donne pas la donnée du bonhomme. Bah, comment ?
Si
Excusez-moi, excusez-moi. Je suis peut-être idiot, mais si j'ai
dans l'espace de
les mathématiques, c'est pas mon fort. Mais de ce que je me rappelle, si j'ai un point là et un point là,
ça te fait une ligne.
Ça me fait une ligne. Je peux pas déterminer la position du bonhomme. Il me faut aussi un point là et un point là pour former deux lignes. Et là où ça se croise, j'ai la position du bonhomme.
Ah, c'est ça.
Quoi ? Non ?
Oui. J'imagine que dans l'axe, on compte les deux points, quoi, dans ce que vous dites.
Bah, c'est les deux points.
Bah, c'est-à-dire...
Deux points, ça me permet de faire une ligne.
Non, mais c'est ça, d'accord.
On est d'accord ?
D'accord.
Ouais. Et donc, ça, c'est dans le plan. Mais si je veux également dans l'espace, j'ai besoin encore de deux points. Oui. C'est six points. Hein ? Non ? Semble-t-il que le Maharal était meilleur que nous en géométrie. Et ça, c'est un autre problème. Donc 6, c'est à ribouille, puisque ça te permet de donner la place, le point dans la place.
Quand tu lui as répondu, tu lui as dit c'est compliqué d'enseigner le Maharal.
Ouais. Nakhon, exactement. Ça a l'air. Ok. Vechen ba'u al Avraham, vechen atidim lavo im Gog u'Magog. C'est vechen ba'im al Avraham.
Ba'im al
Avraham. Ouais. D'abord, si on compte, on arrive à combien? On arrive à 185 000. C'est-à-dire 45 000, 80 000, 60 000. C'est-à-dire on arrive à 185 000.
À moins qu'on dise que les 45 000, ils avaient tous 80 000 et 60 000. Quoi.
Alors ça, c'est ce que après, on va pouvoir faire. Nahon. Nahon. Donc on va te dire si tu es. Donc tu vas dans les exponentiels et donc tu arrives à 2,5 milliards. Mais là, on se limite à 100, c'est déjà pas mal. 185 000 hommes, c'est pas possible qu'il y ait une armée à l'époque qui compte autant de gens. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressources pour ça, machin, c'est évident. Et on te dit, mais Vechem Baou al Avraham, Vechem Yavou al Gog Magog. C'est-à-dire que, on te dit, Avraham, quand il a fait la guerre contre les quatre rois babyloniens, c'était les mêmes. Il y avait autant de gens. Et il y aura autant qui viendront faire Milchemet Gog Magog. Donc ça veut dire qu'on est devant un Tavnit Kvoa. C'est-à-dire qu'on s'en fiche vraiment de savoir combien il y avait. Mais la guerre qui est ici mise en place, c'était déjà dans ses origines la guerre d'Avraham contre les quatre rois. Et ça finalement sera la guerre de Gog et Magog, puisque on l'avait dit déjà avant, ça aurait pu être la guerre de Gog et Magog si Hizkiyahou avait dit le Hallel. C'est-à-dire ? Donc, ben c'est-à-dire, là on te dit, ok, mais alors deux secondes, c'était grand comment le Mahané de Tzava Ashur. Il y a beaucoup de monde. C'est grand comment. Bematnita Tana, Orech Machaneu Arba Meot Parsa. Il y a fait Arba Meot Parsa. Combien c'est un Parsa? Parsa, c'est à peu près 4 km. À peu près. Donc combien c'est Arba Meot Parsa? 1600 km. Ouais, 1600 km, c'est ça. 1600 km. Oui. Ben c'est évident. Hein, le camp des Assyriens faisait 1600 km, bien sûr. Non.
Deux fois la France. Quoi.
C'est deux fois la France, oui, non, mais tout va bien. Et Lama, c'est pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Plus ou moins, on n'est pas à un mètre près. Mais c'est quoi, Arba Meot Parsa? C'est la distance qui sépare Jérusalem de Ashur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire, Machane Ashur, c'était tout le Merchav Haolam, tout l'espace du monde, entre Ashur et Jérusalem. Donc tu comprends que la guerre, en fait, c'est une guerre de civilisation. D'accord? Évidemment que toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Rochav Tzavar Susav Arba Meot Arbaim Sera Parse Sach Machaneu 260 Ribo Alafim Chaser Echad. C'est là que la Gemara nous dit, Sachakol de son Mahané comptait 2,6 milliards de gens. Chaser Echad.
Il y a quand
même,
il y en a un
peu de dommage. Hein? Chaser Echad. Il y avait 2,5 milliards, 2,6 milliards moins 1.
Moins
1. C'est ça? Nous, Bémet, Mazé, Estrim Vechesh. Ah, c'est Shem Hashem. Ken, c'est Shem Hashem, mais Chaser Echad. מה זה חסר אחד? חסר האחד. C'est-à-dire qu'ils aspirent à dévoiler Dieu, אבל חסר האחד. Ok?
Non, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il y avait de 2,6 milliards par
Non, il y avait 2,6 milliards, mais on nous dit chasser achat. Il manque un. On dit il manque un bonhomme. Et c'est ce que Agmara nous dit. Mais c'est Abaye, il vient, il te dit, mais c'est chasser achat ribay. Il manque un ribo. Un ribo, c'est 10 000. Ou alors tu me dis chasser achat alfe. Ou alors il manque 1000. Ou alors chasser mea. Ou chasser achat. Il manque combien? Il manque 10 000, il manque 1000, il manque 100 ou il manque 1? Gmara Omeret, Teiko. Teiko, on s'en fiche. Zelo Aignan, Zelo Aishu, t'as pas compris? Ce qui est en train de se jouer, c'est Aechad. Zema Shekashu. Donc, il manque Bemet, Aechad. Ils essayent d'aspirer à ça, aval Zelo Oved.
Ils essayent
les Assyriens? Alors, il faut bien comprendre un truc. D'après le judaïsme, après, je sais pas comment eux. Ils réfléchissent. Mais comment nous, on voit les choses? Une mamlacha qui n'est pas Stam Monaco, mais qui est une mamlacha qui règne sur le monde antique de l'époque, le monde connu de l'époque, vadaï qu'elle est là parce qu'elle dévoile quelque chose dans le dévoilement divin. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement d'importance et de poids dans le monde, c'est sûr qu'il y a Dieu qui se révèle là-bas. Et c'est pas pour rien que lui, il est là et que lui, il n'est pas là. C'est-à-dire, quand on te dit « Lev Melachim Beyad Hashem », c'est vrai pour chaque roi, mais c'est évidemment encore plus vrai pour le roi du monde. C'est-à-dire ? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. « Aval Zelo Oved, Chatzer Mashu ». OK ?
La guerre de Gog et Magog, c'est la guerre entre les Juifs et les peuples, ou on dit que c'est les peuples entre eux et que les Juifs vont de côté
Ah non, non. D'après Chesquel, d'après Zecharia, c'est nous contre eux. C'est voilà, à moins que il y en ait qui décident. Il y en a, non, ils peuvent très bien décider qu'ils viennent prendre fête et cause pour nous. Regarde, Charlie.
C'est parce que cette guerre, c'est aussi un archétype.
Nahon. Donc là, tu vois que c'est tous contre nous.
C'est ça.
Maintenant, le but de Milchamet Gog Magog, c'est que Yedo et Shem Hashem. Donc il y en a qui peuvent prendre de l'avance. Maintenant, on a déjà parlé, je ne sais pas si on a parlé ici, match de Milchamet Gog Magog, mais j'ai fait trois cours sur Milchamet Gog Magog, qui s'appelle Milchamet Gog Magog 1, 2 et 3. C'est pas si. Ça ne fait pas aussi peur que ça. Non, parce que c'est une voie de Pouranout. Donc, c'est une voie de Pouranout qui n'est pas obligée de se réaliser. Toutes les névoites de mal, elles ne sont pas obligées de se réaliser. D'un autre côté, et à la fin de Mechamed Gogumagog, c'est très bien, parce que Kulam Yodim et Shem Hashem. Donc ça va, oui, se réaliser obligatoire. Donc on n'est pas obligé de passer par le côté destruction d'abord. Et deuxièmement, rien ne nous dit que c'est une guerre forcément militaire. Agave, il y a une DA, effectivement, qui dit que c'est ça. Enfin, qui parle de maladie, machin. Il y a des déos. On peut très bien dire que c'est une guerre médiatique, que c'est une guerre sociale, que c'est une guerre économique. Il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent être affiliées à une guerre. Hein, donc, c'est pas. Bekitsur, Tana. Alors, venez, maintenant, on rentre dans notre histoire. Tana, Rishonim Avru Beshechai, Secha, Shenemar Vechalav Yehuda Ve. שטף ועבר אמצעים עברו בקומה שנאמר עד צוואר יגיע אחרונים עלו עפר ברגליהם ולא מצאו מים בנער לשתות עד שהביאו מים ממקום אחר ושתו שנאמר אני קרתי ושתיתי מים. Donc vous avez bien compris que ici qu'est-ce qu'on dit? On dit comment est-ce qu'ils boivent tous ces gens? L'armée de Sanhérib est énorme, de 2,6 milliards, faut bien leur donner à boire. Tov, barour que ici on parle pas simplement de boire, et là, maïm ze mekor haïm. D'où est-ce qu'ils puisent, chacun ici, là-bas, à jour, leur force de vie? C'est-à-dire, alors on te dit, ça dépend de leur madriga personnelle. Il y en a qui puisent la source de vie, be afar shel ragleim. Il y en a qui puisent la source de vie au niveau du cœur, et il y en a qui puisent leur source de vie au niveau de la tête. C'est-à-dire, en quoi je suis connecté à Dieu? Est-ce que je suis connecté à Dieu de manière intellectuelle? Est-ce que je suis connecté à Dieu de manière sentimentale? Ou est-ce que je suis connecté à Dieu de manière naturelle, on va dire matérielle? C'est-à-dire Véactive. Ok, donc maintenant, très bien, on a présenté l'armée. Maintenant, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? והכתיב ויצא מלאך השם ויכה במחנה אשור 185 אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. עכשיו זה לברסה דן ספר מלאכים. אגב, פורקווה Est-ce que Malach Hashem il a frappé Machane Ashour? Pourquoi est-ce que c'est pas Chizkiyahou qui a fait la guerre? Pourquoi Chizkiyahou il les a pas attaqués? Tu vas me dire, il a peut-être pas une armée de 2,6 milliards.
Je ne sais pas sur les miracles dont tu avais parlé, qu'il ne voulait pas justement, il voulait pas attaquer, il voulait quelqu'un jouer au cul.
C'est vrai, il demande à Dieu, Ani Ole Almitati et Ataose. Mais pourquoi il a fait ça? Alors certains, et on va pas dire de qui on parle, parce que sinon, voilà, certains diront que, bah tu vois, Chizkiyahou c'était un tzaddik, donc il préférait l'intervention divine, la tfila, plutôt que d'envoyer ses hommes à l'armée. Tov, c'est Hamoud, c'est juste le Italem, Misefer Melachim, de quelques versets qui sont avant, qui nous disent pourquoi Chizkiyahou il a demandé l'intervention divine. Parce que juste avant de faire le siège de Jérusalem, on nous raconte que Sanhérib, il a pris toutes les metsudot qu'il y avait Be'eretz Yehuda. On n'a plus d'armée. C'est pas qu'on veut pas faire la guerre, c'est qu'on on est en train de la perdre, la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a plus, de quoi faire. Si bien que Rav Shaké, lorsqu'il vient sur les murailles de Jérusalem pour faire la guerre psychologique, il dit, je peux vous donner Elef Soussim, vous n'avez personne pour les monter. Donc c'est pas que Chizkiyahou il est un pro spirituel. C'est j'ai plus de quoi faire la guerre. OK, donc si j'ai plus de quoi faire la guerre, bah je vais là, toi de jouer. C'est-à-dire, c'est quand même un petit peu différent quand on voit les choses sous cet angle-là.
En fin de compte, pas besoin de faire l'armée quoi. C'est pas besoin d'armée.
Alors
non, pas...
si tu n'es que au niveau Si tu es que au niveau de Chizkiyahou, pas besoin de faire l'armée. Si tu es que au niveau de Chizkiyahou. Si tu es plus élevé que Chizkiyahou, alors tu comprends la valeur qu'il y a en allant faire l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez les Ptirtot de Echa Rabati. Tu te rappelles? Migilat Echa. Migilat Echa, elle a un midrash qui s'appelle Echa Rabati, dans lequel il y a 26 Ptirtot. Des introductions à Midrash Echa. Et dans une des Ptirtot, je ne me rappelle plus laquelle, on nous dit quelque chose, mais comme personne ne va lire les Ptirtot de Echa Rabati, c'est marqué dans Midat à Nekiyut de Mesilat Yesharim. Où là-bas, il reprend exactement le Midrash. Et en fait, il nous explique là-bas quoi ? Eh bien, le Midrash nous dit qu'il y a une grande différence entre David, Asa, Yehoshaphat et Chizkiyahou. Tous les quatre sont des rois tzadikim. David, Asa, Yehoshaphat, Tzadikim. Alors, il y a une différence entre tous. David, il a dit Erdof Oivai, Ve'asigem, Ve'lo Ashuv, Atkalotam. Donc, David, il dit moi, je vais faire la guerre, je vais poursuivre mes ennemis, et je ne reviendrai pas tant que je ne les ai pas tous explosés. C'est vrai ? Ça, bien fait. Asa, lui, il dit moi, je veux bien faire la guerre, mais je ne veux pas les poursuivre. Toi, tu les poursuis, Dieu. Yehoshaphat, lui, il dit... je veux bien faire la guerre, je veux bien les poursuivre, mais je veux pas tous les tuer. Yehoshaphat, il dit, moi, je veux bien faire la guerre, mais je veux pas les poursuivre. Et Chizkiyahou dit, moi, je veux pas faire la guerre. C'est-à-dire, donc, on a soit une Yerida, certains te diront, non, c'est Aliat Madriga. Bon, j'aimerais bien voir quelqu'un qui dit que Chizkiyahou, il est plus que David. Ça te cachait. Et d'autant plus que Messiah Tisharim nous dit, pourquoi est-ce qu'il y a eu une Yerida de Madriga qui... Asa, Yehoshaphat et Chizkiyahou, lo ayu nekiim kolkar kmo David. C'est-à-dire que la madriga de David, c'est celle qui dit non, on va faire la guerre et en cela on va dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Quand tu n'es pas au niveau, alors tu demandes de faire la tfila et que Dieu il intervienne. C'est pas un idéal, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, donc finalement, on nous dit Vayetze malach Hashem vayakem bemachane Ashur 185 alef vayashkimu baboker vine kulam pegarim metim. Amar Rabbi Abahu alalu rashe giyasot hen. Donc ça, c'était les 185 000, c'était les chefs de file. C'était pas toute l'armée. C'était les chefs. Amar Ravashi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Ravashi? Daikana midirtiv bemishmanav razon bishmanim deid beu amar avina daikana midirtiv veishlach Hashem malach veyekached kol gibor chayil venagid vesar bemachane veyavo bet Elohav ומציה מאב שם יפילו בחרב. Donc nous dit Ravashi, on peut les daïek. On peut les daïek de ce qui est marqué dans les versets qu'on a cités, qu'en fait, il y avait chez eux, chez tous ces responsables de l'armée, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, parce que se faire attaquer par Malach Hashem, Zelostam. C'est-à-dire, Zelostam. On a appris de ça que ces gens-là n'étaient pas n'importe qui. Ils ont été jugés par Dieu directement. Donc ça veut dire qu'il y a dans ce que représente Ashour quelque chose qui vaut la peine d'être directement jugé par Dieu. On va falloir essayer de comprendre de quoi on parle. Donc on nous dit que...
Ouais. Peut-être simplement le fait qu'ils allaient massacrer l'homme Israël.
Oui, mais à ce moment-là... Oui, mais à ce moment-là, pourquoi tu as besoin d'envoyer Malach Hashem? Pourquoi est-ce que tu n'envoies pas un astéroïde?
Parce que c'est Malach Hashem.
Oui, mais tu n'es pas obligé de le présenter comme tel. C'est-à-dire, là, il y a quand même une nid galoute. C'est pas rien, une nid galoute. C'est-à-dire, alors, le Malach, il a frappé, mais comment il a frappé? C'est très important de savoir comment les Assyriens ont été tués. Bemaïkam, comment il les a frappés? Alors, premier avis, vous allez voir qu'il y a 5 avis de comment Dieu il les a éclaté. Rabbi Eliezer Omer, Beyad, Beyad Ikam, le Rabbi une tarte. C'est-à-dire, Sheneimar, Vayar Israël est Ayad Agedola, Ayad Shatida Leipara Misancherib. Quand on était devant la mer, qu'on a vu Yad Hashem frapper les Égyptiens, sache que c'est la même main qui va frapper les Assyriens. C'est-à-dire, Oto Yad. Top. Rabbi Yoshua Amar, Be'etzba, Ikam. Pas avec la main, avec le doigt. Tov. Sheneemar, Vayomeru achartumim el paro, etzba Elohim hi. Hi, etzba sheatida leipara misancheri. C'est quand on te dit, c'est le doigt, ah oui, c'est le doigt qui va frapper également l'armée de Sancheri. Donc on a soit Yad, soit etzba. Ma evdel. Yad, c'est caché, c'est coé. Le but de la main, c'est de tout détruire. Boum. Etzba, qu'est-ce que ça a révélé là-bas en Égypte? Parce qu'on a vu, Yad Hashem face aux Égyptiens, bah, ils sont tous morts. Ou alors quand on voit dans les diplés, Yad Hashem, Aoya Bemiknecha, c'est-à-dire tous les animaux sont morts. Aval Etzba, quand ils ont dit Etzba Elohim Hi, Achartumim, Makatakinim, mais ça montrait ici un dévoilement divin. Ils ont reconnu le dévoilement. Donc quand tu attaques par la main, c'est que tu veux juste détruire. Quand tu attaques par Etzba, c'est-à-dire que tu veux qu'ils reconnaissent quelque chose. C'est-à-dire, l'opachut. Ok. Et après on nous dit, Rabbi Eliezer, Beno shel Rabbi Yossi à Galilée, Omer. C'est pas une troisième fois. Oui.
Bien que même la chantaya de Gadola, ça.
Ouais.
Hein bah,
y a oui, mais pour nous, non, mais nous, pas les Égyptiens, pas ceux qui ont été frappés.
Oui, bah, ceux qui sont morts de toute manière, ils peuvent pas.
Alors que Yad, c'est les Égyptiens c'est qui ont dit Yad Etzba Elohim, lo Yad Etzba, c'est ça. Donc, pour nous, évidemment, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Mais nous dit le Rambam, tu te rappelles, Ze Emuna, Sheesh Acharea Irou. C'est-à-dire, ok. Ok, ouais, c'est bien. Ouais, Dieu, il est capable de tuer les Égyptiens. Ok. Mais c'est pas Emouna Leolam. Ça sera que Bar Sinai. Ok? Rabbi Eliezer ben Noche, Rabbi Yosef Galili, Omer, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Gavriel Malach, Netusha, Amar lefanav, Ribono shel Olam, Netusha, j'ai sauté un mot. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Gavriel Malach, Magalcha Netusha, ta, comment dire, la faucille. C'est une faucille. Magal. C'est une faucille.
Une fourrure.
Non, alors la fourche, c'est Ah, c'est pas Magal, c'est... Khermesh. Khermesh, c'est une fourche. Il y a une différence entre la fourche et le Magal. La fourche, ça prend tout. Magal, c'est beaucoup plus petit. C'est-à-dire ? Donc là, il te dit, Magalcha netusha, ta faucille est prête. Amar le fanav ribono shel olam netusha v'omedet misheshet yemei bereshit sheneemar mipnei choravot nadadu v'gomer netusha, nous dit Rashi, c'est mushchezet, ça veut dire je suis aiguisé. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est pas une autre façon de comment ils sont morts. Ça nous raconte qu'en fait qui frappe, qui est envoyé, c'est qui le Malach Hashem? C'est Gabriel. Il y a plein des malachim. C'est qui le malach qui va faire le boulot? Gabriel. Non, Raphaël, c'est Raphaël. Justement, quel est le boulot de Gabriel à chaque fois qu'il intervient? Au Gibor. Okay. C'est celui qui est le. Comment on dit? Le canaï. Le,
vengeur.
Vengeur, ouais, il est très très chauvin. Il est fan du homme Israël. Dès qu'il y a un problème avec l'honneur du peuple juif, c'est Gabriel qui vient. C'est-à-dire, Gabriel, il vient et te dit, moi je suis prêt, mais cherchez tes mévéréchit. Je n'y ai à deux secondes. Il n'y a pas de libre arbitre. Les Assyriens. On nous dit, depuis la création du monde, la magale pour les tuer, elle est prête. Ma.
Il y a un libre arbitre, mais il y a besoin.
Non, ça veut dire que, bah, d'accord, qu'il y a un libre arbitre pour chaque Assyrien. Mais la destinée collective, elle est en marche. Maintenant, est-ce que monsieur ou madame assyrien, il a envie de faire le mal et d'être dedans ou pas? Ça, c'est son problème.
Mais alors, quoi, il
n'y
a pas de libre arbitre en tant que
peuple?
Nachon.
Bidiouk. Il n'y a pas
de libre arbitre. En bechira chofshit le umot. C'est ça qu'on te dit quand le pasouk nous dit lev melachim beyad Hashem.
Ça leur enlève la responsabilité.
Bah non.
Que, par exemple, que les Allemands, ils
c'est pour ça que c'est pour ça, c'est pour ça que je t'ai dit.
Je pensais, mais
bien sûr, mais c'est pour ça que je t'ai dit. Il y a d'un côté le klal et il y a de l'autre côté le prat. Ne faites pas l'erreur de penser que le klal c'est l'ensemble du prat. C'est-à-dire combien il y a d'Allemands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait le klal. Non. Yesh Mashur qui s'appelle le klal, et dedans il y a des pratim qui vont ou pas participer ou pas. On va aussi avoir des justes parmi les nations chez les Allemands, peu, mais il y en aura. C'est-à-dire quand on parle, quand je guide en Pologne machin, les gens ils ont un regard assez critique quand même sur les Polonais de manière générale et par rapport à l'antisémitisme en particulier. Et quand tu leur dis, oui, mais vous savez que le pays d'où il y a le plus de justes parmi les nations, c'est la Pologne. Ouais. Tu me diras, c'est là qu'il y avait le plus de juifs à pas sauver. Non, en pourcentage, oui, bien sûr. Le plus de juifs, le plus de justes parmi les nations, c'est en Pologne. Ça ne veut pas dire que tous les Polonais étaient sympas, bien loin de là. Bien sûr que non. Mais il y avait des gens qui ont décidé de ne pas participer à la barbarie, qui ont décidé, non, moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, en Allemagne aussi, il y en avait. Alors, soit il y en avait parce qu'ils étaient des gens bien, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas antisémites, mais il y en a peut-être qui étaient antisémites, mais qui ont décidé que, à Cannes. C'est-à-dire, c'est très possible. D'ailleurs, on en connaît certains. C'est-à-dire, des gens qui se sont opposés ouvertement à Hitler, qui ont fini dans les camps aussi. C'est-à-dire, donc, il y a le Prat et il y a le Klal. Chaque nazi est responsable des... De tout le massacre qu'il a fait, lui, personnellement. Après, qu'est-ce qu'il en est du klal, que ce soit Israël ou des différentes identités nationales, ça, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch. Donc, je n'enlève en rien la responsabilité de l'individu.
Comment ça peut avoir lieu? C'est-à-dire que, imagine que tout le monde dise « Non, je ne prends pas part ». Alors, le peuple...
Viens, on l'a fait à l'envers. Viens, on l'a fait à l'envers pour nous. Non, bien sûr, je vais répondre. Je dis pour répondre, je ne parle pas de eux, je parle de nous. Ouais. Nous aussi, on marche comme ça. À Israël, ça marche aussi comme ça. Si à Israël, tout le monde il dit on ne sort pas d'Égypte, disons, alors il n'y a pas la sortie d'Égypte?
Non,
un problème. Alors, Zéo, il y aura la sortie d'Égypte, quoi qu'il. Est-ce que toi et moi, et plein de moi et toi, on va en faire partie ou pas? Ça, c'est notre problème. Mais sortie d'Égypte, il y aura. C'est bidiouk, machin, yomer. Akadosh Baruch Hu, il se débrouillera d'une manière ou d'une autre qu'il y ait ne serait-ce qu'un juif au Sinaï. Toi, tu veux participer ou pas? C'est ton problème.
Alors, ce juif-là, en tout cas, il n'a pas son libre arbitre.
Tu comprends qu'on ne parle pas d'un bonhomme, je ne vais pas te donner sa théoda de Zéhout. C'est-à-dire, c'est l'histoire, elle avance. Je te donne un exemple concret, la Géoula. Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de le libérer, il a décidé de recréer l'État d'Israël. Kachazé. Alors, est-ce que toi et moi, on fait l'alia? C'est personnel. Mais le fait qu'on fasse ou pas, va rien changer au fait que ça avance. Zemayesh. Pareil pour ce qui est de la chute d'une nation. Il y a des nations qui ont existé qui ne sont plus là, Ashour. Maintenant, est-ce que Ashour, il y a peut-être des Assyriens qui ont survécu à la chute de l'Empire Assyrien? Mais c'est évident. C'est-à-dire, mais la Assyrie a disparu. Mais il y a des individus qui ont continué. C'est-à-dire, donc ça marche dans les deux sens. Ok ?
Ça veut dire que
au niveau du collectif, évidemment, il n'y a pas de libre arbitre, mais au niveau de l'individu, il y a un libre arbitre total. Ok ? Ça veut dire, est-ce que le peuple juif va partir en exil ?
Il
va
partir. Un vrai libre arbitre.
Total. Un vrai total. Complet. C'est une des bases du judaïsme, les amis. Quoi non ?
Ok, je sais que c'est une des bases, mais je sens qu'il y a une arnaque.
Pourquoi tu mets une arnaque ?
C'est pas fluide, ce libre arbitre.
Et pourquoi pas?
Parce que. C'est pas fluide.
C'est pourquoi c'est pas fluide? Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il peut te demander des comptes à la fin si en fait t'es une marionnette? Donc s'il te demande des comptes, c'est parce que tu pouvais dire non ou oui.
En théorie.
Moi je vois pas pourquoi ça dérange en pratique.
Par exemple. Je vais donner un exemple plus concret. Un enfant qui a 4-5 ans,
ouais.
Il peut dire oui ou non, mais en vrai, on l'influence vachement.
Okay.
Et on est capable d'influencer vachement. Donc, okay. Il a son libre arbitre, mais est-ce qu'il l'a vraiment?
Je te rappelle.
Est-ce qu'il veut faire non. Coup, judo ou foot, ok je... Il sait qu'on a hyper envie qu'il fasse foot. A priori, souvent, il va aller au foot.
Ouais, mais je te rappelle quand même que d'après le judaïsme, on a quand même mis des âges butoirs pour savoir est-ce que c'est Gil Chinour. Est-ce que c'est Ben Adam Sheou Bardat? Est-ce qu'il est Bar Mitzvah? C'est-à-dire que Oumed Al Shelo. Donc ça veut dire que tu me donnes un exemple de quelqu'un qui est de toute façon pas encore capable de prendre, on le considère pas encore comme étant quelqu'un qui prend ses décisions. Donc Am Israël, c'est pareil. Toi et moi, c'est pareil. Quand je suis jeune, on me demande pas de compte. D'ailleurs, ben effectivement, je dois pas rendre des comptes sur ce que j'ai fait quand je suis jeune. Ça m'est pas rendu géré. C'est-à-dire. Mais une fois que je suis un adulte, bah oui. Nous dit le Ralbag, Akadosh Baruch Hu yodea akol zulat mashiachlitu anashim.
Il sait tout.
Il sait tout, sauf ce que les gens ils vont décider.
Mais en même temps, il sait l'avenir. Donc il sait ce qu'on
non.
Bah
non.
L'avenir collectif.
Bah non.
Il n'est pas limité au point de ne pas savoir ce qu'il va se
faire. Il y a fait. Quel est le problème quand on vient de dire ça? Que je dis qu'il ne sait pas ce que je vais mettre, quelle chemise je vais mettre demain.
Okay.
Et tout le monde dit, ah bah non, tu limites Dieu. Sauf que ça serait le limiter uniquement si je dis qu'il ne peut pas le savoir. Or, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quand il me donne le libre arbitre, il peut aussi me l'enlever. C'est-à-dire, un chloquet ben Aramban, le ben Rabbi Ovadia Sforno, à propos de Pharaon qui lui a endurci son cœur. Est-ce que c'est pour lui garder son libre arbitre? Ou pour lui enlever. Alors, il y a deux avis. Il y en a un qui te dit, c'est pour lui enlever. Et ça, c'est ce qu'on comprend bien. Mais il y en a un autre qui te dit, mais non, attends, il doit faire face au diplé.
Ouais.
Pour qu'il puisse continuer à faire face, on lui endurcit le cœur pour qu'il continue avec son libre arbitre, mais qu'il ne soit pas influencé par les miracles. Donc, il y a soit ça, soit ça. Mais sans rentrer dans ce que moi, j'en pense. S'il y a un avis qui te dit que Dieu, il peut lui enlever le libre arbitre, ça veut dire que tant qu'il me l'a laissé, c'est son choix. C'est son choix. Donc, ce n'est pas un manque, parce qu'il peut décider de me l'enlever. Mais tant qu'il me l'a donné, il a voulu ne pas savoir. Ça ? Mais tout ça, c'est au niveau individuel. D'accord ? C'est ce que le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Chabad. Quelqu'un qui lui a demandé la question fameuse, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever ?
Une pierre
qu'il ne peut pas soulever. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, quelle est ta réponse ? Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever ? Tu vois le piège ? Parce que si tu me dis oui, alors ça veut dire qu'il ne peut pas la soulever. Si tu me dis non, ça veut dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Le Tzemar Tzedek ne s'est pas démonté. Il a dit oui, il peut. Non seulement il peut, mais il l'a fait quand il a créé le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une pierre qu'il ne peut pas soulever. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de la mettre en place. Et c'est pour de vrai. C'est très important, parce que sinon, Bémet, chez les musulmans sunnites, il n'y a pas de libre arbitre. Akol maktoum min Allah. C'est-à-dire que le terroriste qui va à Elad, il dit c'est pas moi, c'est Allah. Et bien nous, on n'accepte pas ça. C'est-à-dire, nous, on leur donne des cigarettes. C'est chacun son délire. C'est-à-dire, nous. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Oto a perek zman bishul perot aya. Le moment où ils ont été tués, les Assyriens, c'était zman bishul perot. Ah, quel rapport? Amar lo Kadosh Baruch Hu le Gabriel. Kshata yotze levashel perot, hizakek lahem. Sheneemar midei avru yikach. Midei avru yikach etchem ki baboker baboker yavor. ביום בלילה והיה רק זוועה אבין שמועה. אמר רב פאפה, היינו דאמרי, אין שאגב אורך לבעל לבבך, דבבך, סליחה, השתמה. נודי רב פאפה, ססקו לז'ון ידיס, כשתלך לדרכך, יתראה לשונך. מה? ז'רדי התומון, סי, שולה לגע, שולה. זה כבר זמן בישול פירות. מה זה זמן בישול פירות? כמו זה ספל דון התורה? Le moment où les pérotes sont prêts. Vayehi miketz yamim. C'est ce qu'on nous dit par rapport au korban que va amener Caïn. Caïn, il en veut, il amène miketz yamim. Ça y est, la récolte, c'est la fin de la récolte. Zéou, bichoul le gamre. Donc là, on nous parle de quoi? On dit que ça aurait dû être acharit yamim. Il représente quelque chose qui pourrait être la fin des temps. D'accord ? Ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure. Après, il y a une troisième façon dont on nous dit qu'ils ont été tués. Donc, on a dit Yad ou Etzba. Yesh Omrim, en général, c'est Rabbi Nathan. Bechotemam nashaf baem va metu. Sheneemar vegam nashaf baem va yivashu. Troisième avis, comment ils sont morts ? Il leur a soufflé dans le nez et ils sont morts. C'est autre chose, ça. Hein, c'est soufflé dans le nez.
Adam, il a soufflé dans le nez.
Il a fait. Adam Arishon, va y par be'apav nishmat chaim, ça lui a donné la vie.
Ouais.
C'est-à-dire que Mazé, il lui a soufflé dans le nez. Il lui a insufflé quelque chose. Est-ce que ça te donne la vie ou est-ce que ça te tue ? Il y a cette image dans ce film fantastique que tout le monde a apprécié à sa juste valeur. Indiana Jones 4 et le crâne de cristal,
ouais.
bien évidemment, hein, ça valait le coup d'attendre 20 ans pour ça. Là-bas, on recherche la sagesse, la chokhma. La chokhma, c'est Mechayet à Adam. Seulement là-bas, dans le film, la méchante, eh bien, elle veut trop de chokhma et ça la tue. C'est ça ? Donc, ici, on nous dit, il leur a soufflé dans le nez, ça les a tués. Nous. Donc, est-ce que le Mekor Achaim, Zemechaye ou Zememit ? Ah, chez nous, Zemechaye. Chez eux, moralement parlant, ils n'étaient pas là. Donc, Zememit. Verabir Mia Bar Abba Amar, Kapaim Safak Laem Vametu. Non, lui, il dit Dieu, il a fait comme ça, et ils sont morts. Ouais, il a frappé des mains, comme ça, et ils sont morts. Boum, ça les a fait tomber. שנאמר, וגם אני אקה כפי אל כפי, ואניחותי חמתי. פעמל. מה זה אומר? זה הפכה פדימה. יא איסי, Raj Gadol, bidouk. Raj Gadol, qu'est-ce que ça me fait? Et enfin, dernier avis, Verabi Yitzhak Nafra Amar, Oznaim Gila Lahem, Veshamu Shira Mipi Chayot, Fametu. Dieu, il leur a débouché les oreilles et ils ont entendu la Shira des Chayot à Kodesh. Et ils sont morts. Opa. C'est-à-dire, Sheneemar, Mi Romemutecha Naftsu Goyim. Donc, c'est quoi cette histoire? On a, vous avez compris, 5 façons de voir comment ils sont morts. Il les a frappés, il leur a mis un nounounou, il a soufflé, il a frappé des mains et il a fait entendre la Shira du monde. Asrafim, Veofanim, Vechayot HaKodesh. Vous l'aurez compris, Ashur, il mérite d'être frappé par un dévoilement divin. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on va frapper chez Ashur? Est-ce qu'on va frapper le Nefesh, c'est-à-dire la partie concrètement biologique, physique de Ashur? C'est avec la main. Est-ce qu'on va frapper le Ruach, à Ruach, chez Megale Etzba Elohim Hi? Est-ce qu'on va frapper la Neshama, chez le Vayipar Be'apav Nishmat Chaim? Est-ce qu'on va frapper le Chaya, c'est-à-dire le Raj Gadol qui m'empêche d'avancer? Ou est-ce qu'on va frapper la Yechida, c'est-à-dire la Shira qui vient à mes oreilles, et comme on dit dans le Mahamad Har Sinai, le Cholaham Roim et Akolot. Mazé Roim et Akolot, nous dit Yonatan Ben Uziel, qu'ils ont vu comment la voix sortait de la montagne, mais rentrait différemment dans chaque oreille de chacun, qui parle à chaque individu. Donc, quelle est la dimension de Ashur qui méritait d'être détruite? On a 5 avis pour nous dire qu'il y a 5 étapes. Mais ça là. Est-ce que tout le monde est mort? Eh bien, finalement, non. Nous dit la Gemara, Vekama nishtayer mehem. Combien sont restés en vie? Ah, Rav Amar Asara. Il y a 10 qui sont restés en vie.
Top. 2 milliards à 10.
Hein, c'est peu. Sheneemar, Ushar, Etz, Yaru, Mispar, Yi, Venar, Vihtavem. Ma komonahar, Yechol, Lirtov, Asara. C'est quoi Asara? Qu'est-ce que c'est? Asara, c'est Akdusha. C'est Akdusha. Donc ça veut dire que Nishar Mashu Kadosh, chez Ashur. Ou alors, Shmuel Amar, Tisha. Ah, il manque Echad. Donc ça veut dire que ce qui m'achète Nishar, c'est Apratiyut. Parce que Teisha, c'est Ribouy Apratim. C'est le plus grand chiffre des Pratim. Donc Nishar Aprat. Ou alors, on nous dit non. Shenemar Venisha Bolelot, Kenokef, Zait, Shenaim, Shosha Gavim, Virosh, Amir, Arba, Khamisha, Beseifea. Rabbi Yehoshua Ben Levi Amar, Arba Asar. שנאמר, שניים, שלושה, ארבע, חמישה וכו'. Donc lui, il dit, il en restait 14. Mais c'est 14, c'est Kigematriat Yad. Donc ils ont encore de quoi construire quelque chose dans le monde. Ou alors, Rabbi Yochanan Amar, Chamisha. Il n'y a que 5 qui ont survécu. Sancheriv, Ushnebanav, Nevuchadnetzar ou Nevuzaradan. Qui étaient parmi les princes qu'on avait vus. C'est-à-dire que c'est quoi ces 5-là? C'est ceux qui vont faire la transition d'une malchoute à l'autre malchoute. C'est-à-dire qu'on voit ici les prémices de Babylone arriver. Nebuchadnezzar, Nebuzaradan. D'accord? Donc il y a quelque chose dans ce Ashur. C'est pas n'importe quoi ce Ashur. Quelle est l'origine de Ashur? D'où ils viennent, Ashur? Ashur à la base, tzadik ou racha? À l'origine. Rappelez, Ashur, on a étudié ensemble Sefer Bereshit, il y a Moult. Hein? Umina Aretzai, Yatsa Ashur. C'est quand? C'est quoi? Migdal Bavel. Migdal Bavel. À l'époque de Migdal Bavel, il y a un monsieur qui s'appelle Ashur. Il est le fondateur de Mamlacha Shel Ashur. Et il décide de sortir de Bavel avec Nimrod. Nous dit le Midrash pourquoi? Ra'a shebanav mordim bamakom yatsa misham. Il a vu que ses enfants étaient en train de se révolter contre Dieu, il est sorti de là. Ah, c'est bien.
Il a
utilisé son libre. Complètement. Et pour faire quoi? Le bien. Mais c'est un Shoresh Kadosh. Bon, le problème, c'est qu'il en a fait quoi? Il a construit Ninive. C'est-à-dire qu'il a construit la deuxième Babylone. En fait, il a utilisé un idéal profond parce qu'en fait, il voulait juste être calife à la place du calife. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bien, évidemment. Quoi qu'il en soit, à Chou, il y a quelque chose à l'origine qui vaut le coup. Tov, sauf qu'au final, en malasot. Alors, juste Agmara nous demande, Nevuzaradan, Gmara. Nevuzaradan, on sait qu'il a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'on a une massorette. Ok. Et Nevuchadnezzar, d'où tu sais que Nevuchadnezzar, il faisait partie des gens? Il dit, Dirtiv, Verave Dei Reviaya de Mei Leber Elohim. Ce qui veut dire, en bon français, j'ai vu, on parle de l'époque où Nebuchadnezzar il est roi et il voit dans la fournaise, il voit Michel, ses copains, et puis il voit Daniel. Et il dit que Daniel, il ressemble à Pnei Elohim. Il dit, ah, d'où t'as vu? D'où tu sais à quoi ça ressemble? Il dit, bah, parce que j'ai vu le malach qui a frappé Mahané un jour. Moi, je dis, voilà, c'est un bon argument pour dire que c'était lui. Voilà, de là, la preuve que c'était lui. En fait, on vient aussi nous expliquer qu'il y a la transmission d'une malchoute à l'autre. Et donc, à la fin, c'est quoi à la fin de l'histoire? Ok, Sanhedrin, il a survécu. Veazma. Amar Rabbi Abaou, il malé mikra katouv iefchar le omro dirtiv. Tov, on a pas terminé, mais on terminera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, Sanhedrin a perdu. Veazma aussi, marcha. Il n'y a plus Ashur. Qu'est-ce que Sanhérive peut faire à la fin de cette guerre absolument terrible dans laquelle il a tout perdu? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak. Yeah.